bienvenue dans Bol, votre émission littéraire sur Radioactive 101.9 FM et sur le www.radio-active.com. Bol, c'est B-O-L, bande originale de livres. Je vous parle d'un livre que je mets en musique en fonction des ressentis que j'ai pu avoir en le lisant. Nous sommes ensemble pour 30 minutes, c'est Patrick pour vous servir et Bol, c'est parti. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Bol, l'un des derniers malheureusement en direct pour cette saison, puisque l'émission va s'arrêter momentanément, je l'espère. En tout cas, je suis super content de vous parler de ce livre, parce que c'est un livre qui m'a beaucoup touché, je l'ai lu il y a quelques temps déjà, mais je trouve qu'il est important d'en parler aujourd'hui, et vous allez comprendre très vite pourquoi, hein, de toute manière, dès que je vais vous en parler. Ce livre, il s'appelle « Celui qui va vers elle ne revient pas ». C'est écrit par Shulem Din et c'est paru aux éditions Globe. Alors, pourquoi ce titre ?« Celui qui va vers elle ne revient pas » sont les mots de la Bible envers la femme adultère et ce sont également les mots du Talmud envers l'hérésie. Pour moi, « Celui qui va vers elle ne revient pas » peut-être personnifié, en tout cas le L de ce titre peut être personnifié par liberté, ce qui donnerait celui qui va vers la liberté ne revient pas, sous-entendu vers sa prison. En fait, ce roman, ce récit plutôt, parce que c'est une histoire vraie, celle qui est arrivée à Shulem Din, et tout est raconté en quatrième de couverture. Je peux vous la lire, vous allez voir, c'est super éloquent et j'aurais pas besoin de vous en dire beaucoup plus sur l'histoire finalement que ce qui est écrit et qui dure une petite quinzaine de lignes, très petite ligne. Mais en revanche, toute la symbolique qui est portée par son histoire et la façon dont il la raconte est vraiment très très prenante et c'est vraiment une histoire qui est, moi je trouve, terrifiante, notamment à cause de cet aveuglement qui peut se produire quand on suit certaines personnes qui, sous couvert de religion et de textes sacrés, vous enferment totalement dans un mode de pensée archaïque, tout sauf réaliste. Donc je vous lis la quatrième de couverture, après je passerai un petit morceau de musique et puis après je vous reparlerai un petit peu plus en détail de ce livre absolument passionnant et édifiant. Shulem Din a été élevé dans l'idée qu'il est dangereux de poser des questions. Membre des Xver, l'une des communautés hassidiques les plus extrêmes et les plus isolées des États-Unis, il ne connaissait rien du monde extérieur, si ce n'est qu'il fallait à tout prix l'éviter. Marié à l'âge de 18 ans, père de 5 enfants, Shulem Din alluma un jour un poste de radio. Une première transgression minime. Mais sa curiosité fut piquée et le mena dans une bibliothèque, puis sur Internet, et ébranla les fondements de son système de croyances. Craignant d'être découvert, il sera finalement exclu pour hérésie par sa communauté et acculé à quitter sa propre famille. Voilà, je vous en dis pas beaucoup plus pour l'instant, je vous passe un premier morceau de musique et on se retrouve juste après. Toujours à l'écoute de Bol sur Radioactive 101.9 FM et sur le www.radio-active.com. Je vous parle aujourd'hui de Celui qui va vers elle ne revient pas de Shulem Din. C'est paru aux éditions Globe. Alors, ce roman parle d'une communauté ultra-orthodoxe juive, probablement une des plus fanatiques. Ça ne plaira pas forcément. Mais voilà, c'est une communauté juive, mais loin de faire vraiment du prosélytisme, je tenais à préciser d'entrée de jeu que déjà, qu'il s'agisse de la religion juive, de la religion musulmane, de la religion catholique, à partir du moment où ça devient ultra-orthodoxe, où ça devient fanatique, c'est dangereux à la fois pour les gens qui croient à ces tissus de sornettes, parce que je crois qu'on ne peut pas vraiment dire plus, parce que les interprétations des livres saints sont vraiment laissées à chacun, et dans ces communautés ultra-orthodoxes, on est vraiment dans de la bêtise pure. Je tenais aussi à préciser que Shulem Din, après avoir écrit ce roman, entre guillemets, ou ce récit, ou cette autobiographie, a reçu le National Jewish Book Award, donc pour Celui qui va vers elle ne revient pas, preuve que ce prix juif justement a reconnu l'utilité de ce livre. Donc voilà, que nos amis de confession juive ne se sentent pas du tout visés. On parle bien là d'extrémistes religieux, et voilà, c'est une utilité que de parler de ce genre de livre aujourd'hui, parce que je crois qu'il symbolise, en tout cas à mon sens, les replis sur soi-même qui peuvent exister, et ça peu importe comme je le disais tout à l'heure, la religion ou les croyances de chacun, croyances pas forcément religieuses, mais qui peuvent être aussi économiques ou autres. Alors certes, il faut savoir d'où l'on vient, qui l'on est, mais de là à se refermer sur soi-même dans une communauté qui ne laisse aucune liberté ou aucune latitude pour être qui l'on est vraiment, ben voilà, ça pose un grave problème. Et c'est exactement le cas de cette communauté Skver qui justement entrave les libertés de chacun. Comme je vous le disais, notamment en lisant la quatrième de couverture, Shulem Din a été marié à l'âge de 18 ans avec une femme qu'il ne connaissait pas. Alors certes, ils évoluaient dans le même village, entre guillemets, mais ils ne se connaissaient pas, parce que les garçons n'ont pas le droit de parler aux filles, déjà première bêtise. Mais voilà, donc c'est des mariages qui sont plus ou moins arrangés, et qui font que voilà, déjà la première des libertés de choisir son épouse ou son époux, parce que la femme est encore pire au niveau des frustrations, au niveau des interdictions, comme souvent dans beaucoup de religions ou dans beaucoup de sociétés d'ailleurs, la femme n'a pas son mot à dire. Donc c'est aussi montrer ça qui me paraît important aujourd'hui. Donc voilà, Shulem Din, il a été marié, il a eu 5 enfants, il a été banni pour hérésie de sa communauté. Je vous lirai tout à l'heure le début du livre où il explique comment ça s'est passé. Et donc, il a écrit ce livre pour relater de son expérience, et finalement, il a retrouvé des gens qui ont vécu la même chose, de cette communauté ultra-orthodoxe ou d'autres, et avec qui il a pu échanger et se rendre compte que voilà, on leur interdit tout simplement de vivre, parce que c'est véritablement ça, ce village. Comme j'ai d'ailleurs pu vous le lire, dans la quatrième de couverture, on parle de radio, d'Internet. Quand on lit le livre, on a l'impression de se trouver au 15e siècle. On pense, enfin, les images qui viennent quand on le lit, c'est qu'ils sont dans un endroit où il n'existe pas de voiture, seul. Le chef du village a le droit d'être véhiculé, privilège forcément. On a l'impression qu'ils n'ont pas l'électricité, qu'ils mangent à la bougie, ce qui est un petit peu vrai, qu'ils n'ont d'autre loisir que d'étudier le Talmud et certaines façons de l'étudier, justement parce que Parce que justement, on ne leur laisse pas la liberté d'interpréter à leur manière. Il y a des comités de pudeur qui existent dans ce village qui réfrènent toutes les ardeurs, toutes les velléités de chacun à sortir un tout petit peu du cadre. Donc Sulemdine, lui, va un jour allumer un poste de radio et ça va être l'étincelle, ça va être la question. Et si ? Et si quoi ? Et si on me mentait ? Et si la vraie vie, ce n'était pas ça ? Et si tout ce sur quoi repose ma vie était posé sur des fondations qui ne sont pas vraies ? Petit à petit, donc, il va s'émanciper de toutes ses obligations et il va remettre en cause tout un système de pensée, le sien déjà pour commencer, puis forcément tout celui de la communauté. Du coup, il sera banni pour hérésie du jour au lendemain. Il n'aura plus de contact avec sa femme et ses enfants. Il n'en a toujours pas à l'heure actuelle. C'est de dire à quel point c'est violent. Parce que finalement, cette femme, même s'il a été marié, on va dire contre son gré avec elle, finalement, il a appris à l'aimer. Alors c'est pareil, il a appris à l'aimer dans certaines circonstances. Est-ce qu'il l'aimerait toujours aujourd'hui ? Ça, c'est autre chose. Néanmoins, ses enfants... il les aime et ne pas les voir, ne pas pouvoir avoir de leurs nouvelles. Pour lui, c'est un déchirement et c'est quelque chose qui lui frappe justement dans ce livre et notamment dans l'écriture de Sulemdine. C'est qu'il y a une espèce à la fois de détachement parce qu'il ne sombre jamais dans le pathos. En fait, c'est vraiment un récit, j'allais dire, presque froid, clinique, où il relate les choses qui se sont passées alors avec une écriture qui est vraiment posée, qui est immersive. En fait, voilà, c'est ça peut-être, c'est l'immersion dans ce monde, dans cette communauté qui est hyper flippante, parce que on a vraiment l'impression d'y être et on ressent ce mal au ventre de voir à quel point ils n'ont le droit de rien faire finalement, et à quel point justement les chefs, eux, ont certains privilèges qui devraient être non pas des privilèges pour chaque habitant, mais juste une normalité. Enfin bref, je m'égare un petit peu. Mais toujours est-il que sans pathos, il arrive à nous emmener au cœur de cette histoire et à nous faire ressentir véritablement ce que lui a ressenti, l'émerveillement de découvrir le monde extérieur. Alors c'est assez marrant à dire, c'est vraiment pour ça que je vous disais tout à l'heure que le L du titre du livre aurait pu être remplacé par liberté, parce que effectivement, il prend sa liberté, il commence à l'acquérir petit à petit, en se cachant, puis en étant peut-être de moins en moins discret, ce qui fait que tout le monde est au courant et finira par le bannir. Mais voilà, je trouve que aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec toutes les crises qu'on traverse, avec toutes les conneries qu'on peut entendre à droite et à gauche, et pas plus tard que ce week-end par un certain ministre qui parlait de terrorisme intellectuel. Enfin voilà, faut pas se tromper, le terrorisme n'a rien d'intellectuel, c'est des idéologies qui peuvent être intellectualisées, mais quand on entend de telles bêtises, on se demande, mais bon sang, mais où est-ce qu'on va ? Bref, et voilà, c'est vraiment un bouquin que je conseille, parce que il permet de mieux comprendre aussi ces gens qui vivent reclus, repliés sur eux-mêmes, suivant un système de croyance qui est complètement erroné. Je ne parle pas de la religion juive ou des autres religions, là, mais je parle de ces communautés ultra-orthodoxes qui en font des interprétations erronées et très très, très, très mauvaises pour les hommes et les femmes, bien évidemment. Et ouais, je trouve que c'est important d'en parler, parce que avoir accès à ce genre de livre, c'est aussi permettre de ne pas sombrer dans des obscurités même moyenâgeuses, hein, pour être tout à fait honnête. Et ouais, c'est très prenant, c'est passionnant à découvrir. Et puis le talent littéraire de Sulemdine fait tout le travail, en fait. Il nous emporte, il nous prend par la main dès les premières lignes et il nous laisse avec un souvenir impérissable, parce que moi je vous dis, je l'ai lu il y a quelques temps. Alors le livre, il est sorti en 2017 en France, mais voilà, moi je l'ai lu peut-être en 2020 ou 2021, je ne sais plus, mais voilà, toujours est-il que ouais, ce livre, il est saisissant, il est affolant et il est important. Mmh.
day we escape.
Vous êtes toujours à l'écoute de Bol sur Radioactive 101.9 FM et sur le www.radio-active.com et je vous parle aujourd'hui de Celui qui va vers elle ne revient pas de Shulem Din, paru aux éditions Globe. Je vais vous lire un extrait, l'extrait vraiment fondateur du récit de Shulem Din, c'est-à-dire son bannissement. Alors, je ne vais pas vous le lire en entier parce qu'il est assez long, mais voilà, en fait, Shulem Din est convoqué un jour, un dimanche soir, il est 18h, et voilà, il y a Yeshel Spitzer qui l'appelle du bas de la rue et puis qui lui demande s'il peut venir à 22h au bureau du Dayan. C'est pour une réunion, indique-t-il. Shulem Din s'y rend et il commence à subir un interrogatoire, des rumeurs concernant ses agissements, donc sa perte de foi et autres ont été mentionnés lors de cette réunion et soudain il y a le chef qui se met, le chef spirituel de cette communauté qui lui parle. Nous avons entendu des rumeurs à ton propos, commença-t-il. Nous ignorons si elles sont vraies, mais le seul fait qu'elles circulent n'augure rien de bon. Comprends-tu ? Il s'interrompit, les yeux braqués sur moi, comme s'il attendait mon assentiment. On raconte que tu es un apicorus. On raconte que tu ne crois plus en Dieu. Il haussa les épaules jusqu'à ses oreilles, les yeux écarquillés, les mains ouvertes. Comment est-il possible de ne pas croire en Dieu ? Sincèrement, je n'en sais rien. Il semblait réellement perplexe. Pour un homme de son intelligence, la question méritait réflexion. Il aurait aimé l'aborder s'il en avait eu le temps, mais ce soir, le moment paraissait mal choisi. Laissant la question en suspens, il entreprit d'énumérer les rumeurs qui couraient à mon sujet. Je critiquais le rébé. Je cessais de prier. Je dénigrais la Torah et l'enseignement des sages. Je cherchais à corrompre d'autres membres de la communauté, des jeunes gens, des innocents. On disait même que j'avais corrompu un étudiant de la yeshiva pas plus tard que la semaine dernière. Si la rumeur était vraie, mais Mandel n'en avait pas la certitude, j'avais tant bouleversé ce garçon qu'il avait quitté la demeure familiale et s'était installé à Brooklyn avec ses goyim. On racontait qu'il avait eu l'intention de s'inscrire à l'université. À présent, poursuivit Mandel, les membres de la communauté estimaient qu'il fallait prendre des mesures. Ils étaient très inquiets. Le Besdim doit faire quelque chose, répétait-il. Si les gens pensent que le Besdim doit agir, nous ne pouvons pas rester les bras croisés, comprends-tu ? Assis à l'extrémité de la table, Yeshiel Spitzer coinça une papillante sous sa lèvre inférieure, se glissa distraitement à cheveux entre ses incisives. Les trois rabbins écoutaient en silence, les yeux baissés. « Nous ne souhaitons causer de tort à personne, » reprit Mandel, « ni à toi, ni à ta famille, cependant. » Il s'interrompit et jeta un regard au Dayan, avant de poser ses mains à plat sur la table, les yeux braqués sur moi. « Nous estimons que tu dois quitter le village. » J'étais banni. Sur le moment, je ne sus qu'en penser. Je faillis protester, déclarer que j'étais victime d'une campagne mensongère, d'une cabale odieuse destinée à me nuire. Je me ravisais en songeant que cette campagne n'était pas entièrement fausse. À quoi bon le nier ? Je n'appartenais déjà plus à la communauté, elle était formée d'un groupe de fidèles et j'avais perdu la foi. Il y avait néanmoins une différence entre être banni et partir de son plein gré. Si vous êtes banni, vous êtes chassé. Si vous êtes chassé, vous êtes disgracié. Et que dire de ma femme et de mes enfants ? C'était au village que Gitti et moi nous étions connus. Nous ne l'avions pas quitté depuis notre mariage 12 ans plus tôt. Ici étaient nés nos 5 enfants. Dans ce petit périmètre vivaient leurs nombreux cousins, oncles, tantes et grands-parents. Et leurs grands-parents. C'était le berceau de notre famille. 2 ans auparavant, nous avions acheté un pavillon mitoyen de 4 chambres avec la conviction d'y passer une grande partie de notre vie. Sans être luxueuse, cette demeure était spacieuse, ensoleillée et moderne. Nous l'avions achetée neuve. Elle sentait encore la peinture fraîche et le polyuréthane quand nous avions emménagé. Elle nous plaisait. Nous avions planté un arbre dans le jardin de devant. En outre, nous l'avions acquise pour un prix raisonnable et avions obtenu un taux d'intérêt très favorable pour l'emprunt immobilier. Autrement dit, les choses n'étaient pas aussi simples que le Besdin le laissait entendre. « Je ne suis pas seul en jeu, » déclarai-je au rabbin. « J'aimerais rentrer chez moi et discuter avec ma femme. De toute façon, même si nous acceptons de partir, nous devons d'abord trouver un acquéreur pour la maison. » Je savais que les rabbins n'appréciaient guère ce genre de réponse, mais je l'avais énoncé sans flancher. Contrairement à ceux qui avaient été bannis avant moi, je ne manquais pas d'audace et j'étais mieux informé. Je savais qu'aux États-Unis, au début du 21e siècle, nul ne pouvait chasser un citoyen de chez lui à moins d'être mandaté par l'État. Or, le Besdin n'était pas l'État. Mes interlocuteurs échangèrent des regards soucieux, même le Dayan qui avait opiné du chef pendant le petit discours de Mendel en me gratifiant de temps à autre d'un sourire contrit, l'air de dire « Je suis désolé, cher ami, de devoir en arriver à cette extrémité », paraissait désemparé. S'ensuit alors des menaces et Shulam Dim devra partir. Mais écoutez, moi je vais devoir partir aussi, je vous laisse sur Radioactive, salut!